Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Dans le cadre de Partager le savoir, je reçois aujourd'hui le professeur Jean-Paul Pancratio, qui est professeur de droit international. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit international, vous avez commencé votre carrière à Clermont-Ferrand, je crois, et vous êtes actuellement professeur de droit international aux écoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan, dont vous dirigez également le centre de recherche.
Absolument.
Vous avez beaucoup publié en droit international, notamment dans le domaine des espaces, et vous avez également publié un très beau dictionnaire de la diplomatie, dont la seconde édition sortira à la rentrée. Avant de parler de droit diplomatique et de droit international, j'aimerais retracer un peu avec vous votre parcours et vous demander quelques avis sur des questions internationales. Vous êtes originaire du Portugal, je crois.
Non, pas personnellement, mais ma famille côté paternel, absolument.
Oui.
C'est une immigration qui vient de la région de Porto.
Oui.
Précisément de la ville où il y a les caves de Porto, Vila Nova de Gaia, et qui remonte à 1914. Simplement, la famille est venue travailler parce que bon, il y avait pas beaucoup à manger. Hein, je crois que c'est tout simplement ça. Elle est venue travailler au moment de la Première Guerre mondiale, quand les hommes français sont partis au front et qu'il fallait, pour faire tourner les usines, chez Michelin en l'occurrence, et il fallait des bras. Donc voilà, c'était je pense, l'un des premiers gros appels à l'immigration en France, il me semble.
Cette période de la guerre de 14 a été très éclairante sur l'immigration des travailleurs, puisque chez Renault, par exemple, on a eu recours aux immigrés russes. Pour vous, Michelin, c'était les Portugais et d'autres peuples, sans doute.
Oui.
Donc, vous faites partie d'une fratrie assez large, je crois. Vous
étiez cinq enfants.
Cinq enfants. Est-ce que vous aviez un destin particulier vers le droit?
Absolument pas. Non, j'étais littéraire en tous les cas, passionné par les sciences humaines, mais je me destinais plutôt, étant assez bon en langue au lycée, je me destinais plutôt à une carrière de professeur de langue. Et mes parents m'ont dit, bien que d'origine très modeste, ils se sont beaucoup sacrifiés pour cela, et ils ont essayé de faire en sorte que leurs cinq enfants suivent des études supérieures. Ils y sont arrivés. Et ils m'ont dit, écoute, il y a un de tes frères, une de tes sœurs qui a fait une mauvaise expérience, qui est allée là où ça lui plaisait, mais finalement, il n'y a pas trop de débouchés. Toi, essaie de faire une discipline où tu es sûr de pouvoir avoir un travail à la sortie. Et vas-y, on croit savoir que le droit, quand même, ça mène à beaucoup de choses. Et voilà, j'ai suivi le conseil.
Et vous avez été très bien élevé, parce que tout en étant professeur d'université en France, où on fait beaucoup de théorie, ce que j'aime dans votre parcours, c'est que vous n'avez jamais rompu le lien avec la pratique du droit. Vous avez été avocat, et puis vous avez, tout en professant, toujours gardé des relations de travail avec le corps diplomatique et avec les militaires. Donc vous êtes à la fois praticien et enseignant.
Oui, absolument. Il y a un côté personnel qui fait que je m'ennuie assez vite dans la théorie absolue, si vous voulez, et que j'ai un côté un peu, je sais pas, homme d'action, mais il me faut aussi un petit peu d'action. Donc, et je crois que dans le domaine du droit, c'est pareil pour la médecine. Oui. Ce sont deux domaines où la théorie doit s'inspirer de la pratique très fortement. Et quand elles sont coupées, ce n'est pas très bon. Et j'ai exercé comme avocat de 87 à 97 et pendant 10 ans, et avocat spécialisé en droit administratif et un peu en droit international, je me suis aperçu qu'il y a un certain nombre de choses que j'enseignais en amphithéâtre à mes étudiants qui n'étaient plus appliquées, qui étaient encore dans les ouvrages qu'on lisait, dans les ouvrages de référence, dans les ouvrages de certains grands maîtres même, mais qui n'avaient déjà plus de sens. C'est là qu'on s'aperçoit que la pratique fait du bien.
Oui, elle ancre dans la réalité,
voilà,
je crois.
Elle permet aussi d'illustrer, de très bien illustrer un cours, quoi. On a beaucoup d'exemples très vivants. On a la vie du droit à transmettre aux étudiants avec ça.
Vous enseignez le droit international aux officiers supérieurs de l'armée de terre. Est-ce que c'est indispensable pour les officiers d'avoir une formation de droit international?
Maintenant, absolument. L'état-major en est le premier convaincu, la ministre de la Défense aussi. Il n'y a plus de grande école militaire où on ne fasse plus du droit. D'ailleurs, maintenant en opération extérieure, ce qu'on appelle les opérations extérieures, donc dès qu'une armée va au titre du maintien de la paix, sur un mandat multilatéral, surtout du Conseil de sécurité, mais éventuellement d'une organisation régionale, va en opération extérieure, en OPEX, comme disent les militaires qui aiment bien les sigles, eh bien, toutes les armées adjoignent à leurs généraux un conseiller juridique maintenant pour savoir ce que le général peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Parce que de plus en plus, les opérations de maintien de la paix, il y a des militaires bien sûr, ils sont au premier rang, mais deviennent des opérations de maintien de l'ordre et intérieur. Des fois, il faut séparer des populations qui se haïssent, comme au Kosovo, hein, comme en Bosnie, à d'autres endroits, au Soudan, etc. Et donc, les militaires sont au milieu de la foule, sont au milieu de civils. Et donc, ils ne peuvent pas réagir comme s'ils avaient en face des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis qu'ils ont en face d'eux.
Oui, d'ailleurs, on ne parle plus de guerre, on parle de conflits armés, de droit des conflits armés.
Oui, et de crise, beaucoup.
C'est devenu très procédurier.
Oui. D'ailleurs, bon, vous avez suivi, je pense, l'affaire qu'il y a eu en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Eh bien, le fait, c'est assez nouveau que un général soit mis en examen et que des subordonnés à ce général soient mis en examen. Ça veut dire que l'État est soucieux lui-même du comportement de son armée et de la respectabilité de ses militaires. Parce que si on veut faire la leçon à des États qui sont en déliquescence, qui sont souvent l'objet d'une corruption importante de la part de leurs élites, il faut pouvoir donner l'exemple. Hein.
Dans l'introduction du premier volume qui vous a fait connaître, publié chez Armand Collin en 1997, qui est le droit international des espaces, c'est-à-dire la terre, la mer, les fleuves, l'air, le cosmos, vous avez écrit que le droit international était le seul droit à avoir une vocation universelle.
Oui, parce que je pense que c'est quelque chose d'effectif, parce que c'est une matière, on le voit en enseignant, le droit international public, c'est la matière que l'on peut enseigner dans n'importe quelle université du monde, finalement. Le droit administratif français, j'ai beaucoup de respect pour ceux des collègues que l'on appelle les internistes, qui font du droit interne, du droit de leur pays, mais ils vont pas très loin avec le droit administratif français, hein, ils vont pas aller l'enseigner dans une université américaine. Avec le droit international, c'est vraiment la seule matière juridique, la seule discipline juridique qui soit universelle, qui soit réellement universelle.
Est-ce que c'est une forme de mondialisation ?
Oui, parce que à partir du moment où on a universalisé l'institution étatique, on a universalisé la structure qu'est l'État, la structure de gouvernement et de gestion d'un peuple et d'un territoire qu'est l'État, on l'a mal universalisé d'ailleurs, hein, on n'a pas encore réussi à le faire. Et bien, on a internationalisé, on a mondialisé le droit international, qui est le droit de l'État finalement, le droit des relations entre les États, le droit des relations entre l'État et le peuple, entre les États et les organisations internationales, etc.
Par sa formation, le droit international est essentiellement du droit européen ?
À l'origine, absolument. Les premières relations diplomatiques ont été des relations européennes. Et les premiers États qui se sont formés en mettant à part l'empire du milieu, hein, l'empire chinois, l'empire perse également, avec lesquels les États européens lanceront des ponts, hein, enfin, essaieront de communiquer par des relations diplomatiques, difficilement au début, mais ils ils y sont arrivés, eh bien, les premiers États, les premiers grands États sont européens. On estime que les premiers États en tant que tels, hein, au sens moderne du terme, au sens où que le mot moderne en histoire, sont apparus à l'époque qui correspond chez nous à François Ier, Henri III, François Ier, donc 15e siècle finalement, 15e, 16e siècle.
Le droit international public, progressivement, a été d'abord un pouvoir de l'exécutif, puis il s'est légèrement parlementarisé, et depuis une trentaine d'années à peu près, il y a une éruption du juge dans le droit international public. Qu'est-ce que vous pensez de ce troisième pouvoir qui arrive sur la scène internationale alors qu'il en a été écarté pendant très très longtemps?
Alors pour ma part, j'emploierai pas le mot pouvoir, je parlerai, comme dans le système étatique interne, je parlerai de l'autorité. On dit un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, et puis l'autorité judiciaire, pour bien montrer qu'on veut pas de pouvoir des juges, quand même. Il nous fait peur. Et bon, en droit international, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il y a deux sortes de juges en droit international. Il y a le juge des États, qui est la Cour internationale de justice, un tribunal, et puis deux, trois tribunaux spécialisés, comme le tribunal du droit de la mer, qui siège à Hambourg, maintenant, qui est récent. Il y a d'autres cours un petit peu spécialisés, comme le tribunal arbitral, qui statue sur les problèmes d'investissement internationaux, qui siège dans l'enceinte de la Banque mondiale à Washington. Oui. Voilà. Et à côté de ça, il y a maintenant des juridictions qui statuent à l'international sur les individus. Sur les personnes, c'est le type même. Ce sont les tribunaux pénaux internationaux de l'AE. Il y en a un sur l'ex-Yougoslavie, il y en a un autre sur le Rwanda. Et puis maintenant, la Cour pénale internationale. Alors ça, c'est effectivement un phénomène tout nouveau qui tente à transformer d'ailleurs de plus en plus l'individu en faire un être international lui aussi, à côté des États. C'est un phénomène qui est en train de participer à l'émergence d'une société civile internationale. Et c'est pas, il y a le négatif, c'est-à-dire qu'ils sont là pour punir des individus qui ont commis des crimes internationaux. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup, mais ils sont monstrueux, hein. C'est ce qu'on appelle les actes internationaux odieux, le génocide, crime contre l'humanité, acte de torture, crime de guerre. Les gens qui commettent ces crimes, qu'ils soient militaires ou civils ou hommes politiques, ils sont poursuivis maintenant. On le voit avec la recherche active de M. Vladić, hein, à l'heure actuelle, et en ex-Yougoslavie. Et ils sont poursuivis assez systématiquement devant les tribunaux internationaux.
Dans le cadre de Partager le savoir, nous recevons aujourd'hui le professeur Jean-Paul Pancratio, qui a écrit... Dans le cadre du Centre de recherche des écoles de Coëtquidan, des petites chroniques de droit international, c'est-à-dire que dans des articles assez courts, bien qu'il y en ait quelques-uns qui soient assez denses, vous faites une sorte de chronique, de commentaire, au mois le mois, des événements internationaux. Alors je dois dire que c'est original, c'est très amusant souvent, parce qu'il y a des incidents inattendus avec des résultats juridiques nombreux et variés. Et puis vous commentez beaucoup dans vos derniers écrits des aspects très nouveaux, des problèmes de sécurité maritime. Et de liberté des mers. En fait, ce sont deux éléments d'un paradoxe étonnant. On demande de plus en plus de sécurité maritime au transport maritime, mais en même temps, on s'inquiète beaucoup de la liberté des mers. Pourriez-vous nous en parler un peu?
Oui, c'est vrai que là, il y a un paradoxe, parce que la liberté des mers est un principe général qui est venu jusqu'à nos jours. Certains États ont beaucoup combattu pour obtenir cette liberté des mers, la liberté de voyager et de faire du commerce librement sur les mers. Parce que au fil des siècles, selon la puissance maritime qu'ils détenaient ou qu'ils ne détenaient plus, certains États ont essayé de s'attribuer la souveraineté sur la mer.
Les Anglais sont même allés jusqu'à revendiquer un empire des mers,
absolument,
je crois.
Absolument, oui, oui. Et la souveraineté totale sur ce qu'ils appelaient les British Seas, c'est-à-dire un domaine maritime assez indéterminé, sans frontières, mais qui entourait assez largement, très largement, la Grande-Bretagne. Et là aussi, c'était un élément de sécurité avant tout. Mais les Portugais, lorsqu'ils sont allés conquérir, découvrir toutes les côtes occidentales d'Afrique, puis les côtes orientales de l'Afrique, puis un certain nombre d'archipels comme les Mascareignes, où se situent l'île Maurice et la Réunion à l'heure actuelle, puis les célèbres, les Indes, c'est eux qui ont été les premiers en Inde, les vraies Indes, en quelque sorte. Hein. Et parce que Christophe Colomb les recherchait, mais il a découvert les Indes occidentales avant l'Amérique. Et bien, les Portugais souhaitaient avoir le monopole de cet espace océanique absolument énorme, le monopole de la partie orientale de l'Atlantique et de l'océan Indien, en quelque sorte. Et le roi de Portugal a pris, dans sa titulature, a pris un titre de seigneur de l'océan, seigneur de la mer. Alors que le roi d'Angleterre a longtemps gardé dans sa titulature le titre de roi des mers. Donc vous voyez ces empires de la mer un petit peu qui ont essayé d'instaurer une souveraineté maritime. Alors il y a des peuples comme les Français, comme les Hollandais également, qui ont beaucoup œuvré pour obtenir les libertés. Plus tard, les Britanniques, quand ils ont cessé de revendiquer la souveraineté sur la mer, ils ont revendiqué, quand ils ont commencé vraiment à faire du commerce maritime, ils ont reconnu la liberté des mers. Et alors, aujourd'hui, donc, il a fallu lutter pendant des siècles pour arriver jusqu'à peu près au XVIIIe siècle, avoir reconnu cette liberté des mers avec le Hollandais Grotius, notamment, qui a laissé un grand nom en droit international de la mer. Et aujourd'hui, on est préoccupé par les affaires de sécurité, bien sûr, parce que il y a le phénomène terroriste et on sait que les terroristes peuvent éventuellement un jour attaquer de la mer. Ils l'ont déjà fait. Et ils ont attaqué des bateaux dans des ports. Ils ont attaqué un pétrolier français, le Limbourg, au large du Yémen. Et donc, le grand souci qu'ont les États de ce point de vue-là, mais il y en a d'autres, c'est qu'un commando terroriste s'empare d'un pétrolier qui serait lancé sur un port à grande allure. Ça peut être Singapour, qui est très peu défendu, qui est facile d'accès. Et un pétrolier qui est lancé à vitesse maximale, il met 10 km pour s'arrêter. Il met 5 miles. Donc, vous voyez, il y a une inertie très importante. Et vous lancez ça sur une raffinerie du bord de mer au Havre.
Ou à Istanbul, à Singapour.
Ça fait des dégâts considérables. Vous faites sauter la ville. Et donc, c'est un souci, cette sécurité des mers. C'est aussi un souci par rapport à tous les trafics d'ordre mafieux qui traverse l'océan. Vous savez, l'océan, c'est un énorme espace, c'est les trois quarts de la Terre, et on considère que c'est l'espace où les trafiquants de tous ordres, y compris d'êtres humains, avec les trafiquants d'immigration clandestine, etc., de drogue, etc., trafiquants d'armes, c'est là qu'ils sont le plus en sécurité, dans cette immensité où il n'y a pas grand monde, finalement. J'ai rencontré il y a pas longtemps, parce que j'ai fait un embarquement en mer sur un navire de guerre, sur une grande frégate. Son commandant me disait, mais un jour j'ai fait la traversée de la moitié du Pacifique entre la Polynésie et la Guinée équatoriale, etc. Et j'ai rencontré dans cette traversée de plusieurs milliers de kilomètres, j'ai rencontré sur l'aller-retour un navire.
Un seul.
Ouais. Et quand on regarde le globe terrestre, on s'aperçoit que le Pacifique, c'est la moitié de la Terre, c'est 45% de l'espace terrestre. On est abrité finalement dans un espace pareil. Mais l'Atlantique aussi, le milieu des Caraïbes, c'est pareil. Donc, les États sont très soucieux de cette sécurité.
Les États sont très soucieux de cette sécurité. Pour les plateformes pétrolières également?
Pour les plateformes pétrolières, ça fait partie des scénarios de contre-stratégie terroriste. On a pensé effectivement au fait que des terroristes pourraient s'attaquer à des plateformes pétrolières, des plateformes d'exploitation offshore du pétrole, et les faire brûler, provoquer d'immenses pollutions maritimes éventuellement.
Est-ce que, avec les moyens technologiques qui existent maintenant, est-ce que vous parliez de l'immensité du Pacifique à l'instant, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous en mer?
On peut fort bien avec le GPS, avec les systèmes de positionnement satellite, on peut très bien se donner rendez-vous en mer, absolument.
Avec précision.
Avec précision, tout à fait. Tout à fait.
C'est étonnant.
Oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle maintenant les États, certains États très développés qui ont pu acheter ces avions, il y a les avions AWACS, vous savez, les anciens Boeing reconvertis en avions radar qui ont cette énorme coupole sur leur dos. Maintenant, ils peuvent repérer les rendez-vous en mer. Et il n'y a pas très longtemps, il y a plusieurs mois, les Américains qui ont d'autres AWACS mais qui sont très occupés ailleurs nous ont demandé un AWACS. Un autre AWACS basé à Bourges, sur la base d'Avord, de venir sur un rendez-vous supposé de trafiquants de drogue dans les Caraïbes.
Un sujet qui vous préoccupe beaucoup, sur lequel vous avez écrit il y a peu de temps, est celui des fleuves internationaux, dont le modèle est la convention de Meinheim, qui concernait le Rhin à l'époque, je crois que c'est en 1868,
oui, tout à fait.
Qui est le modèle universel d'internationalisation des fleuves, d'utilité publique finalement.
C'était le premier exemple, oui.
Oui. Ouais. Où les Européens ont fait une espèce de tour de magie juridique en disjoignant le lit du fleuve et l'eau et l'usage de l'eau. Donc, où en sont les fleuves internationaux, professeur Pancratio, actuellement?
C'est un énorme domaine, là encore. Il y a beaucoup de fleuves internationaux. Il y en a pratiquement une centaine. Et c'est-à-dire que quand on dit fleuve international, on parle souvent aussi aujourd'hui de son bassin. C'est-à-dire, on parle de voie d'eau internationale. Ce qui intègre le fleuve lui-même, le cours principal, et l'ensemble de ses affluents. Quand on considère l'Amazone, on considère le bassin tout entier. Et c'est un énorme domaine fluvial. Or, la plupart de ces fleuves sont les plus grands, disons, sont régis par un traité particulier. Mais en plus, il y a deux conventions qui s'appliquent. L'une à la navigation, c'est la convention de Barcelone de 1921. Et désormais, il y a une autre convention qui est de 97. Alors, qui porte sur les usages autres que la navigation, les usages fluviaux autres que la navigation.
Qui sont les activités industrielles, l'habitat également.
Hydroélectrique, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation, tout ce qu'on veut d'autre, toutes les activités qu'on peut avoir sur un fleuve.
C'est un but de protection générale de l'environnement?
Absolument. Et surtout, l'intérêt de cette convention de 1997, une convention c'est un grand traité, c'est d'avoir énoncé le principe que un fleuve international, c'est une ressource économique. C'est pas seulement une voie de communication, c'est aussi une ressource économique qui doit être partagée. Et dès lors qu'un État en amont veut utiliser ou détourner une partie de l'eau du fleuve, il doit négocier cet usage avec les autres. Donc il y a désormais une obligation de négociation dans l'usage du fleuve, dans quel domaine que ce soit, de négociation et de partage équitable de la ressource. Et partage raisonnable également. Il y a les deux termes qui sont employés.
La République de Turquie est sérieusement épinglée ces traités. Pouvez-vous expliquer brièvement à nos auditeurs, quel est le problème de la Turquie?
Alors, parce qu'elle construit plus d'une vingtaine de barrages sur le cours supérieur du Tigre et de l'Euphrate, et qu'en aval, il y a un pays qui en souffre beaucoup. Bon, il y a la Syrie qui en souffre, il y a l'Irak qui en souffre beaucoup. D'ailleurs, dans Bagdad, où j'étais en 2000, si je me souviens bien, les Irakiens m'ont montré le niveau du Tigre qui avait baissé de 2 mètres, en raison déjà des premières utilisations unilatérales et non négociées du fleuve par les Turcs en amont. Alors bien sûr, ce sont des ouvrages pour l'hydroélectrique, la fabrication d'énergie hydroélectrique pour l'essentiel, et pour l'irrigation aussi un peu, mais qui se sont faits sans aucune négociation, dans le mépris le plus total des populations avales. Or en aval, il y a quand même la Mésopotamie,
oui,
et les plus belles palmeraies d'Arabie.
Dans le cadre de Partager le savoir, nous avons reçu aujourd'hui le professeur Jean-Paul Pancratio. Professeur, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup.